Alors, maintenant, il y a quelques questions relatives au troisième chapitre auxquelles j'aimerais répondre. La première question est, merci pour cette très inspirante explication de ces deux versets. À un niveau intuitif, il me semble que cela fait du sens d'adresser des prières à tous les Bouddhas et être illuminé de tous les temps. Mais parfois, je me demande de quelle manière les Bouddhas, qui ne sont pas présentement sous forme humaine, existent. Quand vous parlez de différents systèmes de monde, est-ce que cela peut être compris dans le sens des trois kayas? Ou est-ce que c'est mieux de ne pas mettre des mots sur des concepts qui sont au-delà de la compréhension ordinaire? Vous pouvez... Vous pouvez, je pense, en parler. Habituellement, vous savez, nous avons en termes bouddhistes les règnes purs. Les règnes purs qui sont classés en règnes purs, Dharmakaya, règnes purs, Sambhogakaya, règnes purs, Nirmanakaya. Bien que les trois kayas ne sont pas vraiment trois choses, mais plutôt des aspects de l'expérience de l'illumination. Mais vous savez, le monde, que ce soit un monde illuminé ou bien un monde samsarique, comme nous en avons discuté auparavant, n'existe pas de façon complètement indépendante. C'est un monde qui existe de façon interdépendante, ce qui signifie, comme nous en avons déjà discuté, un non-né. Ce n'est pas seulement un type de projection, mais c'est une perception qui peut être un type de perception collective. Cela peut être une perception individuelle. Cela a aussi différentes causes et conditions. Mais quand nous parlons de faire ces prières et requêtes aux Bouddhas et Bodhisattvas de demeurer parmi nous, d'être avec nous et leur faire la requête de nous guider et de nous donner les enseignements, c'est aussi une purification de notre côté. C'est aussi faire un certain type de changement dans notre attitude. Nous voulons être guidés, nous voulons apprendre, nous voulons être inspirés, nous voulons recevoir les enseignements. Nous voulons travailler sur cela et nous voulons être en compagnie d'êtres positifs. Alors donc, vous savez, cela est une demande au Bouddha, mais est aussi une façon de changer notre propre attitude et de s'entraîner à cette façon d'être. Et donc, alors cela doit être compris de cette manière, je crois. La seconde question est, j'ai essayé de découvrir qu'est-ce qui peut expliquer la naissance de la bodhicitta dans l'esprit. Les causes que j'ai trouvées sont les enseignements d'un bodhisattva. 2, le bon karma accumulé. 3, les bénédictions des grands êtres, des êtres supérieurs. La bodhicitta semble être une expression, une manifestation de la sagesse et de la compassion. Alors, il ne semble pas être les causes de la bodhicitta. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider à clarifier cela? Je pense que nous avons aussi parlé de cela auparavant. La bodhicitta elle-même est sagesse et compassion. Et la réelle cause, ou la vraie raison que nous pouvons générer est parce que Nous avons la graine, nous avons l'essence. Il y a une essence de sagesse et compassion en nous. Notre esprit a naturellement cette capacité. Comme il est dit que nous pouvons obtenir de l'huile à partir de graines de sésame parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur. C'est l'essence de la graine de sésame. Si vous pressez du sable, vous n'obtiendrez pas d'huile parce que l'essence n'y est pas. Il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Alors de la même façon, bodhicitta est en nous. Mais ce dont nous parlons ici, quand nous parlons de causes et de conditions pour la générer, est que bien que ce soit là, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous potentiellement, d'une façon cachée, pour arriver à exprimer cela, pour la faire jaillir, pour la faire fleurir, nous avons besoin de quelque chose pour demander cela, et cela est... Nous avons besoin de quelque chose pour démarrer cela. Et cela est l'enseignement, l'accumulation du karma positif et les amis ou la compagnie de bonnes personnes, des êtres supérieurs. Cela peut nous aider à faire sortir nos qualités de bodhicitta plus rapidement. Cela est la compréhension ici. Ensuite, la prochaine question est... Et j'aimerais poser une question relative à la tentative de comprendre le dharma. Quand vous avez parlé à propos de comment nous devons abandonner les sentiments de jalousie et d'envie parce qu'ils sont dommageables, versets 1 et 4 dans le chapitre 3, je peux voir que cela est parfaitement logique. Par contre, je ne crois pas que cela peut être si facile. J'ai une profonde croyance qui est probablement erronée, que je suis une personne jalouse, que cela fait partie de mon identité. Alors comment pourrais-je juste l'abandonner? Est-ce que c'est parce que j'ai une confusion inconsciente à propos de la vraie nature de l'existence? Par exemple, que j'ai un je fixe et permanent. Vous savez quand vous dites « je suis une personne jalouse » Du point de vue bouddhiste, ce que je comprends, c'est que j'ai beaucoup de tendances habituelles d'agir ou de réagir de manière jalouse à cause de ma façon de voir erronée. Parce que je ne comprends pas comment réagir de façon positive à cause de ma façon erronée de me percevoir. J'ai agi de façon jalouse depuis longtemps. Alors ainsi, cela m'est devenu très familier. Je réagis presque automatiquement de manière jalouse. Alors c'est pourquoi je me perçois moi-même comme étant une personne jalouse. Mais la manière dont je réagis avec jalousie, ce n'est pas moi, c'est une habitude, c'est ma tendance habituelle. Alors donc, je peux changer cela. Vous savez, c'est comme si j'étais un fumeur. Alors je dirais, je suis un fumeur. Je fume, j'aime fumer, je suis habitué à fumer. Et si je ne fume pas, je ne me sens pas bien. Mais c'est une habitude acquise. Une habitude acquise. Mais le fait de fumer est mauvais pour ma santé. Fumer n'est pas bon. Et cela cause plusieurs maladies. Et cela m'apporte beaucoup de problèmes à moi-même ou aux autres. Et quand je réalise vraiment que je veux véritablement cesser de fumer, eh bien, ce n'est pas facile. Personne ne dit que c'est facile. Mais je dois clairement comprendre à quel point c'est important pour moi d'abandonner cette mauvaise habitude. Et alors, j'essaie de prendre l'engagement et je prends une décision et ensuite... Je ne fume plus. Et ensuite, c'est très difficile. J'avais fumé et j'aimerais fumer et tous ces problèmes de dépendance apparaissent. Mais alors, si je suis assez fort, si je suis déterminé suffisamment, si je dispose de tous les moyens nécessaires et que j'ai de l'aide, eh bien, lentement, je peux cesser de fumer. Et ensuite, lentement, lentement, j'en viens même à un stade où je ne ressens plus l'envie de fumer. Je n'ai plus du tout le désir de fumer. Alors, de la même manière, nous devons travailler sur nos émotions négatives. Toutes nos émotions négatives sont des tendances habituelles basées sur une façon erronée de voir et de regarder les choses. Et donc, vous savez, je ne peux pas dire je suis jaloux et c'est ainsi. Je ne le suis pas. J'ai cette attitude de jalousie, j'ai une tendance habituelle de jalousie, oui. Alors si j'ai agi de la sorte depuis longtemps, c'est plus difficile pour moi d'arrêter. Mais puisque cela apporte beaucoup de problèmes à moi-même et aux autres, je dois y arriver. Alors, ainsi, je dois doucement générer la réjouissance et progressivement, de plus en plus. Et doucement, je crois que vous sentirez que ce n'est pas complètement impossible. Et ensuite, c'est la dernière question. Le chapitre 3, verset 5, commence avec Et ainsi je joins les mains et prie. J'ai réfléchi à la prière. Comment prier? Quelle attitude générer dans la prière? Dans le livre récemment publié sur Chenrezig, vous décrivez la prière comme lâcher prise et faire confiance. Voudriez-vous parler de ce qui manque si la prière n'apporte pas de confiance et d'acceptation? Bien, ici, la prière, vous savez, joindre les mains et prier, est plutôt une requête. Et je fais la requête au Bouddha et aux Bodhisattvas et aux êtres supérieurs d'être avec nous ou parmi nous et qu'ils nous guident et nous enseignent et ainsi de suite. C'est une requête, mais généralement il semble le mot prière en anglais est un peu l'équivalent de plusieurs différents mots, enseignements et concepts en tibétain. Prière semble être la traduction de mlam, solle, même parfois de ngowa, parfois aussi utilisée pour damcha et aussi quelquefois pour Duba. Duba. Alors c'est pourquoi je crois que le mot prière est utilisé pour plusieurs significations différentes, différents mots et aussi différents termes. Et aussi, même pour un seul, comme par exemple, Soldep. Il y a de légères différences de compréhension. Il y a un Soldep dualiste. Vous faites une prière à quelqu'un là-haut, ou bien quand vous vous visualisez vous-même et que vous vous voyez comme un être illuminé, c'est une autre façon légèrement différente de faire Soldep ou de prier. Alors, il y a des significations légèrement différentes que vous trouverez dans le bouddhisme en général. Mais ici, je crois que c'est plus un type de requête. Je joins mes mains et je pense à tous les bouddhas et bodhisattvas, tous les êtres illuminés qui emplissent l'espace, où qu'ils soient, sous n'importe quelle forme, dans n'importe quel règne pur, et ainsi de suite. Et ensuite, ensuite, je fais la requête pour moi et pour tous les autres êtres. Je crois que ça suffit pour cela. Alors, c'est la fin des questions pour aujourd'hui.